Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange. Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 20 Dey 1399 du calendrier iranien, 9 janvier 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. La République islamique d'Iran annule l'importation de vaccins contre le coronavirus produits par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les entreprises étrangères ne sont pas autorisées à tester les vaccins du COVID-19 sur les Iraniens, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Le ministre iranien des Affaires étrangères condamne la politique de deux poids deux mesures des pays européens. Et le corps des gardiens de la révolution islamique dévoile une base de missiles souterraines sur les rives du golfe Persique. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Un jour après que le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a interdit l'importation de vaccins COVID-19 en provenance des États-Unis et de Grande-Bretagne, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que les entreprises étrangères ne seront pas autorisées à tester leur vaccin COVID-19 sur la population iranienne. Le président Rouhani a exprimé son soutien au ministère de la Santé qui a empêché cette décision. Certaines entreprises étrangères voulaient tester leur vaccin sur nos gens, mais le ministère de la Santé l'a empêché, a déclaré Rouhani. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est indigné contre les pays européens pour leur politique de deux poids deux mesures et a demandé aux Européens de prendre des mesures nécessaires face aux politiques des États-Unis. Ceux qui ont succombé au harcèlement de Trump pendant 4 ans, et ce afin de protéger leur vie, commencent maintenant à le condamner. Mais il continue à utiliser les sanctions économiques contre l'Iran comme un levier de pression, a précisé le chef de la diplomatie iranienne. Mohammad Javad Zarif a déclaré que les pays européens devraient prendre du recul pour se dresser contre le comportement anarchique de Trump contre la République islamique d'Iran. Téhéran a appelé à plusieurs reprises les signataires européens de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 à honorer leurs engagements après le retrait unilatéral de Washington en 2018. L'Iran a commencé à réduire ses engagements au titre de l'accord car les signataires européens n'ont toujours pas respecté leurs engagements, sous la pression des États-Unis. L'Iran affirme que le simple discours de l'Union européenne sur le soutien à l'accord n'est pas suffisant et que le bloc devrait compenser le retrait des Américains de l'accord de 2015. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a dévoilé l'une des villes de missiles souterraines que le pays a construite le long de sa côte sud du golfe Persique. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré « Nous croyons que nos ennemis n'acceptent pas le pouvoir de la logique, mais s'appuient sur la logique du pouvoir. Il ne nous reste donc plus d'autre choix que de renforcer notre dissuasion offensive et défensive face à leurs complots coloniaux », a souligné le général Salami. Ces missiles ont une portée de plusieurs centaines de kilomètres et sont précis. Et ils ont une puissance destructrice très élevée et sont capables de pénétrer dans l'équipement de guerre électronique de l'ennemi, a-t-il ajouté. Une femme kamikaze dans le nord du Cameroun a tué au moins 13 personnes en faisant exploser ses bombes dans une foule fuyant une attaque armée par des hommes non identifiés, a révélé un rapport de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les assaillants ont lancé l'attaque contre la ville de Mozogo, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria, selon la note de l'Organisation des Nations Unies. Effrayée, la population s'est enfuie dans le parc. C'est à ce moment-là qu'une femme portant une charge explosive aurait pénétré dans la foule et aurait fait exploser ses charges parmi la population, indique la note de l'Organisation des Nations Unies. Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attaque sanglante dont les victimes comprenaient également des femmes et des enfants. Aux États-Unis, les démocrates appellent à démettre Donald Trump de ses fonctions présidentielles, après n'avoir pas cessé de souffler sur les braises au sein du pays de la division qu'est les États-Unis. Le président américain sortant a lancé un appel à la réconciliation sans pour autant condamner les événements du 6 janvier au Congrès des États-Unis. Des démocrates, dont Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, appellent à démettre Donald Trump de ses fonctions présidentielles. Les appels à la démission de Trump se sont multipliés à la suite d'une émeute au Capitole, mercredi, qui a fait 5 morts. Les législateurs ont accusé Donald Trump d'inciter à l'émeute en encourageant ses partisans lors d'un rassemblement à marcher vers le bâtiment du Capitole alors que le Congrès des États-Unis était en train de certifier les votes au collège électoral et déclarer le président élu Joe Biden vainqueur des élections de novembre. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. L'organisation du Croissant Rouge iranien affirme que l'importation de vaccins américains Pfizer COVID-19 a été annulée dans le contexte d'un discours du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, qui a interdit l'achat de vaccins contre le coronavirus produits par les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'importation de 150 000 doses du vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer des États-Unis vers l'Iran par le Croissant Rouge iranien est annulée, a déclaré vendredi à l'IRNA le porte-parole du Croissant Rouge iranien, Mohammad Hassan Moradam. Nous sommes prêts à coopérer si nécessaire au cas où le ministère iranien de la Santé présenterait une demande d'importation de vaccins en provenance des pays de l'Est. Le responsable a noté qu'un certain nombre d'experts iraniens résidant aux États-Unis étaient sur le point de fournir et expédier un lot de vaccins Pfizer COVID-19 en Iran, ce qui n'est plus la question. Plus tôt dans la journée, l'honorable Ayatollah Khamenei s'est déclaré opposé à l'achat de vaccins COVID-19 fabriqués par des sociétés américaines et britanniques. Je l'ai déjà dit aux responsables du gouvernement et maintenant je l'annonce publiquement. L'importation de vaccins américains et britanniques est interdite, a déclaré le guide suprême de la révolution islamique. Si les Américains avaient réussi à produire un vaccin efficace, ils n'auraient pas fait face à un tel gâchis aujourd'hui dans leur propre pays. En un jour, quelque 4000 personnes sont mortes du COVID-19 aux États-Unis, a déclaré l'honorable Ayatollah Khamenei. Le guide suprême de la révolution islamique a ajouté « Je ne leur fais vraiment pas confiance. Parfois, ils veulent tester le vaccin sur d'autres nations. » Le guide suprême de la révolution islamique a souligné cependant que le gouvernement iranien est autorisé à fournir le vaccin COVID-19 à partir d'autres sources fiables. Le président du Croissant Rouge iranien a déclaré à la fin du mois dernier que l'organisation prévoyait de prendre livraison d'un lot de 150 000 doses de vaccins contre le coronavirus produit par Pfizer, mais cette demande est annulée actuellement. Le gouverneur de la Banque centrale de la République islamique d'Iran, Abdel Nasser Hemmati, a déclaré le 5 janvier que le pays avait finalement effectué un prépaiement pour l'achat. Hemmati a déclaré que le prépaiement de 16,8 millions de doses de vaccins de COVAX, une initiative parrainée par l'Organisation mondiale de la santé, avait eu lieu le premier jour après les vacances de janvier. Il a décrit la fourniture des fonds à l'argent de l'OMS en Suisse comme une opération compliquée, car elle devait contourner les sanctions américaines contre la République islamique d'Iran et son accès au système du dollar. Un généticien en charge de l'Institut Pasteur d'Iran a déclaré le 28 décembre 2020 qu'un projet binational de développement d'un vaccin contre le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, est entré dans sa deuxième phase d'essai. Alireza Biglari a déclaré que l'Institut Pasteur de l'Iran suivait de près le procès en cours dans le pays partenaire, dont le nom n'a pas encore été identifié par les autorités iraniennes. L'Iran lutte contre la pandémie la plus meurtrière que le monde ait connue depuis de nombreuses décennies, au milieu des sanctions américaines. En mai 2018, le président américain Donald Trump s'est retiré unilatéralement de l'accord nucléaire approuvé par l'Organisation des Nations Unies, qu'il avait signé en tant que membre du groupe 5+1 avec l'Iran en 2015 et a réimposé des sanctions anti-iraniennes qui avaient été levées en vertu de l'accord. le commerce de biens humanitaires tels que la nourriture, des médicaments et les dispositifs médicaux est théoriquement autorisé par les États-Unis. Mais les entreprises européennes refusent de faire des affaires avec la République islamique d'Iran, craignant des sanctions américaines secondaires. Les interdictions imposées au système bancaire de l'Iran ont dissuadé de nombreuses entreprises pharmaceutiques de faire des affaires avec la République islamique d'Iran, même dans le domaine humanitaire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. C'était le 8 janvier de 2020 que l'Iran a riposté l'assassinat lâche du général martyr Soleimani par les États-Unis en lançant une attaque en missile contre la base américaine d'Ayn al-Assad en territoire irakien. En fait, l'Iran a riposté en dépit de tous les avertissements lancés par les autorités américaines comme quoi s'il y avait une riposte du côté de Téhéran, il va y avoir en fait une fermeté sans pareil de la part des autorités américaines, de la part en fait de Washington. En dépit de toutes ces menaces et de tous ces avertissements, l'Iran a lancé cette attaque au missile contre la base d'Ayn al-Assad, abritant les forces américaines en Irak. Et l'Iran est allé plus loin assumant la responsabilité de cette attaque, en revendiquant cette attaque au missile contre cette base américaine. Quelle était la portée de cette attaque au missile de l'Iran contre la base d'Ayn al-Assad, cette riposte de Téhéran, et quelles en étaient les conséquences, d'autant plus que, il faut préciser ce point, les Américains n'ont osé rien faire après cette riposte de Téhéran contre l'Iran, parce que l'Iran avait transmis ce message aux autorités américaines comme quoi s'il y aura le moindre agissement du côté des États-Unis, la deuxième riposte de Téhéran sera encore beaucoup plus en fait foudroyante et cuisante. C'est de ce sujet qu'on va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, le débat, avec deux invités. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître Arnaud Develé. Monsieur Develé, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité. C'est toujours un plaisir.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris un autre juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître Elie Hatem. Maître Hatem, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, aux téléspectateurs, à mon confrère Arnaud Develé. Et merci de m'avoir invité.
Et Maître Elie Hatem, vous êtes en fait en forme, vous êtes dans votre assiette aujourd'hui. Ça se voit clairement, Maître Hatem. Eh bien, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet de Maître Hatem. L'Iran a riposté à cet assassinat de lâche du général martyr Soleimani, qui a été en fait tué par les Américains lors d'une frappe terroriste à l'aéroport de Bagdad. Et c'était en janvier 2020. Et quelques jours plus tard, il y avait cette riposte foudroyante de l'Iran. Et quelle était la portée et la conséquence, si vous voulez, de cette riposte de Téhéran, maître Hatem, s'il vous plaît?
Écoutez, cette riposte de Téhéran, il faut le dire, elle a été faite d'une manière en respectant le droit international public. Et je m'explique. Et c'est ce respect du droit international public qui a empêché la société internationale de condamner cet acte de la part de l'Iran. Donc pourquoi est-ce que cette riposte de la part de l'Iran est considérée comme étant en quelque sorte légale ou licite? Je ne dirais pas tout à fait légale, mais licite. Parce qu'il y a un principe, qui est celui du non-recours à la violence dans les relations internationales. Et s'il s'agit même d'une agression, il va riposter directement et faire de représailles sans passer par un organe central, qui est celui qui doit réglementer la société internationale, qui sont les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, si l'Iran devait passer devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander une autorisation ou demander une action de la part du Conseil de sécurité, cela n'aurait pas été possible pour la simple raison que les États-Unis font partie du Conseil de sécurité. Ils sont parmi les 5 membres dotés d'un droit de veto, c'est-à-dire empêcher toute résolution du Conseil de sécurité permettant soit à l'Iran, soit à une force internationale, de prendre des mesures pour, rétablir cet équilibre et puis donc répondre à cet acte agressif de la part des États-Unis. Parce qu'il faut qualifier que cet acte terroriste de la part des États-Unis est un acte internationalement illicite parce qu'il s'est attaqué d'une manière inexplicable, d'ailleurs juridiquement, au général Soleimani. Par conséquent, l'Iran était tout à fait dans son droit de riposter compte tenu de cette impossibilité d'avoir un recours aux Nations Unies. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que cette riposte, ces représailles, qui en théorie ne sont pas légales, mais ils sont licites dans ce cas particulier, et elles sont proportionnelles à l'attaque, autrement dit même moins, je dirais fort, que l'attaque qui a visé une personnalité politique sans aucun motif. Et là, l'Iran est revenu en quelque sorte pour rétablir le droit, rétablir cet équilibre en s'attaquant à une base militaire américaine qui, comme on le sait d'autant plus, y est à encourager cette vague, je dirais, de terrorisme et cette vague d'islamistes, c'est-à-dire de ceux qui veulent instrumentaliser la religion à des fins politiques, et qui ont permis la création de ces groupes tels que Daesh, ou bien encouragé également au front al-Nusra. Et ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, c'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui avait demandé d'ailleurs aux alliés, c'est-à-dire des États-Unis à Israël, d'arrêter leur soutien à al-Nusra. Et c'est le président sortant, Donald Trump, qui, lors de sa campagne électorale, avait indiqué que Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, est une création en fait, des services de l'administration de l'ancien président Obama. Et cela a été d'ailleurs confirmé dans un livre intitulé « Hard Choices » de Mme Hillary Clinton, qui avait également, lors de sa publication dans cet ouvrage-là qu'elle a publié pendant la campagne électorale, a reconnu également ce fait.
Et Maître Develet, venait d'entendre les explications, l'analyse de votre confrère, Maître Eli Hatem. Votre analyse, s'il vous plaît.
Bien, écoutez, oui, je partage l'analyse de mon confrère dans le sens où il y a seulement 2 exceptions à l'usage de la force dans le contexte de la Charte des Nations Unies. C'est soit vous avez l'autorisation du Conseil de sécurité. Maître Hatem a parfaitement souligné qu'il eût été vain pour l'Iran de rechercher l'approbation du Conseil de sécurité dans la mesure où les États-Unis, en tant que membre permanent, auraient de toute évidence imposé leur veto. L'autre solution, c'est l'article 51 de la Charte qui permet effectivement l'autodéfense pour peu que cette dernière soit proportionnée et, on va dire, exécutée de manière plus ou moins spontanée. Dans le contexte qui nous intéresse, effectivement, l'Iran a parfaitement agi dans le cadre de ses prérogatives juridiques au niveau du droit international. Gardons à l'esprit que tout à fait récemment, d'ailleurs, à l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat du général Soleimani, le rapporteur spécial pour les exécutions extrajudiciaires, Mme Agnès Callamard, a elle-même rendu un rapport établissant cet assassinat comme étant illégal. Donc, rétroactivement, les Nations Unies se sont prononcées. Certes, ce sont des avis consultatifs qui n'ont pas de... qui ne sont pas, si je puis dire, qui ne lient pas les États membres en tant que tels, mais les rapporteurs spéciaux sont des experts qui n'ont absolument aucun lien de conflit d'intérêt et qui sont justement recrutés pour leur indépendance et leur expertise en la matière. Donc il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Je rajouterais que Ayman Soleimani était invité par le gouvernement à Bagdad dans le cadre justement d'une mission de pourparler pour essayer de faire baisser la tension, sachant qu'il y a tout un contexte qui mène à cet assassinat. Nous avons eu une reconstitution des événements avec des attaques sur les baraques des comités populaires irakiens par des éléments qui visiblement ont été soutenus par les États-Unis. Ceci a entraîné une réaction en chaîne et... On a souvent tendance à l'oublier, mais cet assassinat n'est pas un assassinat qui a lieu dans un vase clos, si je puis dire. Il fait partie d'une escalade, d'une mise en œuvre, d'une opération visant surtout à empêcher les nations de la région de coordonner leur combat commun contre le terrorisme. Et en cela, le général Soleimani était lui-même visé par les Occidentaux parce qu'il avait réussi à coordonner toutes les forces de la région avec des résultats spectaculaires.
Maître Ed Hatem, après la Seconde Guerre mondiale et les pays qui étaient considérés comme les vainqueurs, c'était en fait de tisser un prestige, celui du vainqueur, c'est-à-dire le prestige du vainqueur. Maître Eliatem, peut-on dire que de par cette riposte de Téhéran, de cette attaque au missile contre la base militaire américaine en Irak, une attaque qui a été revendiquée ouvertement par l'Iran, ce prestige des États-Unis a été brisé?
Écoutez, c'est un coup qui n'était pas attendu par les Américains qui, depuis, en particulier à la fin de la bipolarisation et puis surtout depuis la conférence de Dayton qui avait mis un terme à la guerre en ex-Yougoslavie, se sont érigés en gendarmes du monde et en quelque sorte en superpuissance. Même Moscou s'est trouvé derrière les États-Unis après l'effondrement de l'Union soviétique. Donc les Américains ne s'attendaient pas à voir une nouvelle puissance qui va pouvoir les attaquer et puis réparer en fait cet acte illicite en ayant recours à la légitime défense, comme l'a très bien indiqué mon confrère Arnaud Develay, en application des dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, Effectivement, on peut croire aujourd'hui qu'il y a une modification, un bouleversement de cet équilibre des puissances sur la scène internationale et il y a l'émergence d'une nouvelle bipolarisation. Cette nouvelle bipolarisation, je l'ai toujours répété, je l'ai toujours dit, il y a cet ancien axe du bien, de l'ancien monde libre qui était présidé ou dirigé, par les États-Unis, avec certains pays occidentaux, d'autres pays du monde, y compris d'ailleurs l'Iran. Et puis, on avait un autre axe, c'était l'axe soviétique, et c'était le monde, en fait, soviétique. Or, aujourd'hui, petit à petit à la fin de cette bipolarisation et l'émergence en fait des États-Unis qui se sont retrouvés au-dessus des lois et ne respectant pas du tout ou plus du tout le droit international public, nous avons vu que cet axe qui était celui de l'ancien monde libre est devenu une sorte de monde dictatorial sans un dictateur apparent, avec pas mal de difficultés d'expression d'ailleurs, ou même, je dirais, d'idées, c'est qu'on n'a plus le droit de penser, un manque de liberté de penser dans ces anciens pays qui étaient considérés l'ancien monde libre. Et donc, un monde dictatorial, un monde qui est sous la gouvernance des États-Unis et des lobbies qui, en fait, agissent sur la politique étrangère américaine, d'une part, et d'autre part, nous avons vu l'émergence, petit à petit, c'est-à-dire progressivement, d'un nouveau monde libre, c'est-à-dire ce monde libre qui respecte, comme toujours, le droit international public, qui veille au respect de cette réglementation, de ces règles de droit international public, et puis du respect également de la souveraineté des États, de l'indépendance, de l'équilibre international, et puis de l'autodétermination et la non-ingérence des États dans les affaires des autres États. Eh bien, cet axe-là est constitué aujourd'hui, de plus en plus, on l'a vu s'affirmer, par Moscou, qui était l'ancienne capitale du monde soviétique, qui était opposée au monde libre. Aujourd'hui, elle est à la tête de ce monde libre, avec l'Iran, mais également rejoint par la Chine, et nous espérons d'autres pays rejoindre cet axe du bien, cet axe, je dirais, de ce nouveau monde libre, avec l'Inde, éventuellement, qui pour le moment est sous l'emprise américaine, mais elle aspire également à rejoindre ce nouveau monde libre, c'est-à-dire ce monde du respect de la loi. Et c'est un monde, c'est un axe qui va mettre un terme à cette jungle internationale à laquelle les différentes actions des États-Unis, depuis leur intervention d'ailleurs en Irak, avec ce jeu qu'ils ont fait en créant une zizanie entre le Koweït et l'Irak, et par la suite la guerre en ex-Yougoslavie, et j'en passe. Donc nous espérons que cet acte de la part donc, de l'Iran puisse démontrer que les États-Unis ne sont plus cette superpuissance, et c'est ce qui se démontre aujourd'hui avec les événements qui ont lieu dans ce pays qui se dit civilisé, qui se dit démocratique, qui se dit libre et qui devient véritablement une république bananière.
Maître Develet, si j'ai bien suivi Maître Hatem, l'une en fait des conséquences de cette riposte de Téhéran, de cette attaque au missile de l'Iran contre la base américaine Ayn al-Assad en Irak, était de démontrer en fait au monde entier que les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance, la superpuissance irréfutable du monde, parce que l'Iran a attaqué une base américaine en Irak, bien sûr en réagissant à l'assassinat lâche du général martyr Soleimani, et a revendiqué ouvertement cette attaque contre la base américaine.
Oui, tout à fait. J'ajouterais surtout que l'Iran, par sa capacité à se défendre, et se défendre de manière, si je puis dire, éclatante, a mis fin au mythe d'invincibilité des États-Unis, dans un premier temps, et surtout a mis fin à ce sentiment d'impunité des États-Unis, parce que, comme le soulignait Maître Hatem, la fin de la guerre froide a vu cette décennie durant laquelle les États-Unis se considéraient comme l'hyperpuissance, pour paraphraser le terme utilisé par l'ancien ministre des Affaires étrangères français Hubert Védrine, les concernant. Mais surtout qu'il faut garder à l'esprit que le droit international public n'a trait, si vous voulez, que dans la mesure où les États puissants de la planète, qui constituent donc la communauté des nations, respectent de par leurs agissements et de par leurs déclarations les accords, les traités et le droit coutumier international. Or, à partir du moment où les États-Unis se sont sentis affranchis d'avoir, si je puis dire, à se comporter comme un État responsable et surtout respectueux du droit international à l'époque, comme ça pouvait être le cas à l'époque de la guerre froide, nous avons assisté à une espèce d'émancipation des États-Unis du droit qu'ils avaient eux-mêmes pensé inaugurer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec des conséquences catastrophiques, puisqu'à partir du moment où vous ne respectez pas, vous, l'État qui doit donner, si je puis dire, qui se proclame comme étant la métrique, si je puis dire, le paragon moral de l'ordre international, et vous commencez à vous comporter comme un brigand, vous créez des précédents et vous dilapidez, si je puis dire, le tissu légal international qui devrait gouverner les relations internationales, avec des conséquences très graves, puisque les États-Unis n'ont eu de cesse non seulement de détricoter les traités qui régissaient les relations internationales, mais s'en sont eux-mêmes retirés les uns après les autres en imposant des exceptions complètement iniques et unilatérales et en envoyant le message, si je puis dire, au reste du monde que, indépendamment des textes, des traités et du droit coutumier qui régissaient ces relations, les États-Unis s'en accommoderaient en fonction de leurs intérêts propres, ce faisant créant une situation d'instabilité et, comme le disait Maître Athème, effectivement, un climat de jungle. Donc, il est à espérer effectivement que maintenant le retour du monde multipolaire sera en mesure de rééquilibrer, si je puis dire, les rapports de force, puisque le droit international public, disons-le pour nos téléspectateurs, est avant tout un rapport de force, et que ce rapport de force sera, si je puis dire, le granit sur lequel on pourra anticiper un retour au légalisme qui devrait avoir lieu normalement dans un monde civilisé.
Maître Athème, nous arrivons presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Un dernier mot pour conclure notre débat en une minute, s'il vous plaît.
Écoutez, c'est que, comme mon confrère Arnaud Develay l'a rappelé, il faut espérer le retour à une société internationale régie par le droit et les principes du droit international public, c'est-à-dire une société où prime le droit sur l'opportunité politique. Ce que feu Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, a toujours voulu et avait insisté à le faire, et malheureusement, il a été empêché de le faire parce qu'il a voulu, comme il le disait, s'ériger en général, alors que les États-Unis voulaient de lui un secrétaire. C'est ce qui explique d'ailleurs ce bras de fer qu'il a eu avec Madame Madeleine Albright, l'ancien secrétaire d'État américain, qui avait tout fait auprès du président Clinton en interceptant tous les appels qu'il recevait pour soutenir la nouvelle candidature et proroger une deuxième fois le mandat de l'ancien secrétaire général Boutros-Boutros-Ghali. Elle avait tout fait pour empêcher, d'ailleurs, parce qu'il avait aussi pris part en condamnant l'acte
Merci
terroriste
beaucoup.
De... Voilà.
Merci infiniment. Merci beaucoup, maître. Et Elie Athème, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à maître Arnaud Develay, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Khatami, a adressé une lettre au ministre de la Défense de plus de 60 pays
pour les appeler à agir conjointement pour lutter contre les approches sélectives et le double standard en matière du terrorisme d'État. Dans cette lettre, le ministre iranien de la Défense a évoqué les activités humanitaires du martyr Mohsen Fakhrizadeh, savant rebelle iranien assassiné par les États-Unis et le régime israélien, notamment dans le domaine des équipements nécessaires pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Il a demandé à la communauté internationale de condamner l'assassinat inhumain et criminel de ce savant nucléaire iranien, soulignant l'implication directe des services de renseignement et des espions israéliens dans l'assassinat des savants iraniens par le passé. Le général Amir Hatami a souligné qu'il existait aussi des indices irréfutables sur le rôle du régime sioniste dans l'assassinat du martyr Mohsen Fakhrizadeh. Le silence face à ce terrorisme d'État serait un élément encourageant les auteurs et les commanditaires de ces actes et propagerait l'insécurité au niveau mondial, a ajouté le général Hatami dans sa lettre, soulignant que la République islamique d'Iran réserverait le droit de riposter à ceux qui violent les droits de l'homme, le droit international et la charte des Nations Unies. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré que le progrès dans le domaine nucléaire en Iran était tel que nous pouvons facilement enrichir tout pourcentage, même au-dessus de 40%. Ou 60%. Nous sommes capables aujourd'hui d'enrichir jusqu'à 90%, a-t-il souligné. Selon la loi adoptée par le Parlement iranien, si le besoin se situe dans l'enrichissement supérieur à 20%, l'Organisation de l'énergie atomique est autorisée à le faire, a-t-il affirmé ce jeudi 7 janvier, annonçant que l'Organisation iranienne de l'énergie atomique examinerait les besoins en la matière. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi intitulée « Mesures stratégiques pour la levée des sanctions » votée par le Parlement iranien et conformément aux 9 conditions fixées par le guide suprême de la révolution islamique de l'honorable Ayatollah Khamenei concernant l'accord sur le nucléaire iranien, l'Organisation de l'énergie atomique s'est engagée à produire dans les plus brefs délais de l'uranium enrichi à 20% à des fins pacifiques et à en stocker au moins 120 kg par an à l'intérieur du pays. Sur ce fond, l'Iran a enclenché le 4 janvier le processus de production de l'uranium enrichi à 20% dans des installations souterraines nucléaires de Fordo, situées à 280 km au sud de Téhéran. Après 6 ans, nous avons repris l'enrichissement à 20% à Fordo il y a 14 mois. Fordo a été réactivé en raison du non-respect par les pays occidentaux de leurs obligations. Et maintenant, nous y retirerons de l'uranium enrichi à 20%. L'industrie nucléaire de notre pays a la capacité de produire de l'uranium enrichi à plus de 40 ou de 60%, a précisé le porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique dans un communiqué et lui de poursuivre. Actuellement, des machines IRED-1 sont utilisées pour l'extraction de l'uranium enrichi à 20% et nous y avons alloué des 6 cascades. Nous avons la capacité d'utiliser de nouvelles machines IR4, IR2M et IR6. Nous devons installer une cascade de 164 centrifuges dans les 3 prochains mois, comme le stipule la résolution du Parlement iranien, a-t-il conclu. Le grand défilé de la mobilisation maritime d'Iran a eu lieu jeudi 7 janvier en présence du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique au large du port d'Assalouyed dans la région du golfe Persique. Ce défilé maritime a été organisé par les forces navales du CGRI à l'occasion du premier anniversaire du martyr du général Qassem Soleimani assassiné le 3 janvier 2020 par l'armée américaine à Bagdad. Plus de 700 navires et bateaux légers et semi-légers ont participé à ce défilé qui a eu lieu en présence du général Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Ce défilé est la manifestation de la volonté de l'ensemble de la population des côtes iraniennes du golfe Persique et de leur soutien aux forces navales du CGRI, a déclaré le général Opte Hossein Salami, faisant état de la puissance des forces armées iraniennes pour défendre les intérêts nationaux du pays dans la zone maritime du golfe Persique, du détroit d'Ormuz et de la mer de Doman. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a rendu un hommage au soutien populaire des Iraniens, notamment des habitants du littoral du golfe Persique et de la mer de Doman, aux forces navales iraniennes. La justice irakienne a délivré un mandat d'arrêt contre le président sortant américain Donald Trump. Le Conseil judiciaire suprême irakien a fait part de la délivrance d'un mandat d'arrêt contre le président américain sortant des États-Unis Donald Trump pour l'assassinat des commandants de la résistance. Conformément à l'article 406 du Code pénal irakien, le juge spécial du tribunal d'enquête de Rue Safa, chargé de l'affaire de l'assassinat d'Abu Mahdi al-Mouhandes, chef adjoint de Daesh al-Shabi, et de ses camarades, très particulièrement le général Martir Soleimani, a délivré ce jeudi 7 janvier le mandat d'arrêt de Donald Trump. Publié sur le site d'information Al-Maluma, le communiqué du Conseil judiciaire suprême irakien affirme qu'à l'issue de l'achèvement de l'enquête préliminaire, le juge spécial du tribunal chargé de l'affaire de l'assassinat d'Abu Mahdi al-Mouhandes a délivré ce jeudi un mandat d'arrêt contre le président sortant américain Donald Trump. Les enquêtes continueront d'identifier d'autres auteurs irakiens et non-irakiens impliqués dans ce crime, indique le communiqué. Les martyrs, le général Soleimani, le commandant en chef de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, et Abu Mahdi al-Mouhandes, chef adjoint des unités de mobilisation populaire d'Irak, ont été assassinés le 3 janvier 2020 sur ordre direct de Donald Trump lors d'une frappe de drone menée par l'armée américaine près de l'aéroport de Bagdad. En juin dernier, le parquet de Téhéran a annoncé que le mandat d'arrêt contre Donald Trump et 35 autres responsables politiques et militaires aux États-Unis et dans d'autres pays avaient été délivrés pour leur implication dans l'assassinat du général martyr Soleimani, l'Iran ayant appelé à Interpol à les arrêter. L'ancien vice-premier ministre irakien Baha al-Araji, cité par Al-Maluma, a déclaré lors d'un discours « Le mandat d'arrêt émis par la justice irakienne contre Trump constitue une victoire pour le gouvernement irakien et un pas vers la vengeance du sang des martyrs et de la violation de la souveraineté de l'Irak ». L'ambassade d'Iran à Damas a organisé un service funéraire dans la maison d'Al-Assad de la culture et des arts au premier anniversaire de l'assassinat du général martyr Qassem Soleimani et ses camarades. Représentant le président syrien Bachar al-Assad, Boussaïna Chaban, conseillère spéciale à la présidence de la République, a indiqué dans une allocution qu'elle a prononcée lors du service funéraire que la raison principale de l'assassinat du général Soleimani était de liquider ce qu'il représente de la référence politique, militaire et morale dans la résistance à l'occupation, assurant que les auteurs de ce crime ne peuvent point arrêter la résistance. le martyr Soleimani a créé une stratégie sapant les fondements de la stratégie des ennemis et constituant le paramètre commun pour la coordination entre l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine et le Yémen, a-t-il souligné. De son côté, l'ambassadeur d'Iran en Syrie, Javad Tulkabadi, a indiqué que cet acte criminel perpétré par l'administration américaine constitue une annonce de la défaite du projet hostile visant à soutenir le terrorisme, à provoquer le chaos, à déstabiliser la région et à y servir les plans sionistes. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.